Nostalgie, entre les notes.
Alain Chamfort.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes entre les notes d'Alain Chamfort. Bonjour Alain.
Bonjour.
Pour les besoins de cette interview, j'ai écouté un titre que vous avez sorti déjà il y a quelques années, qui s'appelle La Grâce, avec ce texte de Pierre-Dominique Burgot, qui m'a vraiment surpris de par ses contrastes. Il va faire rimer grâce avec crasse, surface avec godasse, tabasse avec tabasse. Et entre la musique, ces mots extrêmement poétiques, ce langage plus familier, ça m'a rappelé un petit peu, par exemple, la logique qu'il y avait eu pour Manu Reva, typiquement une musique entraînante avec un thème plus triste, un peu cette mentalité de souris parce que c'est grave. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous anime, cette idée qu'un titre ne soit jamais vraiment premier degré, qu'il faille toujours prendre un petit peu de recul, un petit peu relativiser?
Oui, c'est une jolie analyse. Je trouve que ce qui m'intéresse, c'est de respecter un peu la complexité des choses, quoi, et d'avoir effectivement de la nuance dans l'évocation des thèmes qu'on choisit, de garder une espèce de lucidité, mais toujours avoir aussi que ça soit jamais pesant, qui est quand même une manière d'aborder les choses. C'est pas des injonctions, quoi. Enfin, j'ai pas le sentiment d'avoir la science infuse. Donc, j'essaie simplement de, avec les auteurs avec lesquels je travaille, parce que c'est pas moi qui écris mes textes.
Oui,
donc,
oui.
J'ai vraiment besoin de trouver de la complicité. Est-ce que j'ai eu la chance de la trouver avec Jacques Duval et avec Pierre-Dominique Burgot, qui sont les deux auteurs qui ont vraiment contribué à m'accompagner et à préciser justement ce genre de cette façon d'aborder, voilà, les thèmes. Avec Serge Gainsbourg, on a travaillé quelques temps ensemble aussi, mais j'avais beaucoup moins de la capacité d'intervenir parce que, bon, c'était Serge Gainsbourg, il y avait une espèce de respect naturel qui se mettait en place. Et puis, moi, j'osais pas trop, enfin, je savais lui refuser quand vraiment ça me convenait pas du tout, mais je pouvais pas lui demander de s'adapter totalement à ce que j'étais, alors qu'avec Jacques et Pierre-Dominique, il y a eu ce cheminement-là qui m'a semblé indispensable et auquel je tenais beaucoup. Et j'ai eu la chance de tomber sur ces deux garçons qui avaient aussi de s'adapter à ça et d'en tenir compte, quoi. Voilà.
Parce qu'effectivement, moi, Julien Clerc, par exemple, lorsque j'avais parlé de son lien avec ses paroliers, il m'avait dit qu'il n'avait pas forcément besoin d'être ami avec eux, que ça se faisait potentiellement avec le temps. Vous, c'est vrai que les justifications des textes que vous interprétez sont souvent très philosophiques. Est-ce que vous partez parfois de constats, eux, qu'ils ont sur la vie et en fait, vous finissez par être d'accord? Ou est-ce que, effectivement, parfois, vous leur passez, comment dire, le mot est peut-être un petit peu grossier, mais des sortes de commandes, on va dire? Vous pouvez dire à un auteur, bon, j'ai ce thème-là qui me préoccupe, bah, écris-moi une chanson là-dessus, s'il te plaît. C'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, que vous pouvez faire?
Ça s'est jamais produit. Je crois que les choses se sont faites beaucoup plus naturellement que ça. C'est la découverte des rencontres, vraiment des manières de se découvrir réciproquement et à travers effectivement des commentaires sur nos vies, sur l'actualité, sur nos sentiments par rapport aux événements et de les échanger et de construire sur ces bases-là une amitié, mais aussi de comprendre qui est l'autre, et il y a des points de rencontre qui font que finalement ils en tiennent compte. Après, ils en ont tenu compte dans les propositions qu'ils m'ont faites, parce que j'ai jamais, moi, fait une commande justement en disant voilà, j'ai envie d'un seul coup de parler de. Alors, ça m'est arrivé avec Jacques à l'époque, parce que évidemment, quand on fait une musique, quand on écrit une musique, ça installe une atmosphère particulière, une humeur, hein. Et cette humeur va naturellement vous inspirer aussi un imaginaire et une idée de voyage, je ne sais pas, enfin peu importe. Et c'est évidemment, je la transmettais à Jacques, mais il n'en tenait jamais compte, voilà, il n'en tenait jamais compte. Et finalement, je devais m'adapter après à la proposition qu'il me faisait, mais elle était tellement plus intelligente, tellement plus surprenante, tellement plus, comment dire, avec un sens, avec tout, enfin, tout ce que auquel je n'avais pas pensé finalement, et qui d'un seul coup me semblait comme une évidence. Et voilà, mais c'était son travail. C'est-à-dire que on se posait souvent les questions, ou des gens de l'extérieur nous posent la question, c'est quoi là, d'où vient l'inspiration, par exemple. Je ne sais pas si beaucoup de gens sont capables de le dire, de l'expliquer. En tout cas, pas moi. Je veux dire que c'est simplement, on découvre soi-même ce qui sort de nos improvisations, de notre recherche, de notre jeu. Et je pense effectivement que je parlais de l'humeur tout à l'heure, mais j'en reviens à ça, c'est que on n'est jamais totalement le même. Enfin, on n'a pas le même ressentiment d'une journée sur l'autre et tout. Et donc, quelquefois, on va avoir une inspiration qui va refléter une espèce de légèreté. Et puis, un autre jour, plus mélancolique. Enfin, donc, ça, c'est, on ne maîtrise pas, quoi, je veux dire. Et la musique qui va venir, vous êtes le premier auditeur de ce que vous faites. Et d'un seul coup, vous avez quelque chose, vous entendez quelque chose qui vient soi-disant de vous. C'est encore un autre mystère que je ne suis pas convaincu que ce soit le cas, mais peut-être que on est une espèce de transmetteur de quelque chose d'autre, qui est un condensé ou une synthèse de toutes les musiques qu'on a entendues, qui nous ont plu, qui nous ont produit de l'émotion. Et quand on se met au travail nous-mêmes, il y a quelque chose comme ça qui sort plus ou moins naturellement et qu'on découvre à ce moment-là. Et donc, quand je disais à Jacques comment t'es venu cette idée, c'était exactement la même réponse qu'il me donnait, où j'écoute ta mélodie, ta musique, et puis à force de la fredonner, d'un seul coup les mots me tombent tout seuls, ils arrivent naturellement, et donc, mais les mots qui leur arrivent à eux sont plus intéressants que ceux qui m'arrivaient à moi avant.
Voilà. Ça peut permettre effectivement de garder une passion long terme, parce que finalement on peut conserver un émerveillement par rapport à ce qu'on va chanter quand ça tout vient pas de nous, quand on n'est pas enfermé dans ses propres mots, son propre travail d'orfèvre tout le temps. Finalement, quand ça vient de quelqu'un d'autre, potentiellement, on garde cette excitation jusqu'au bout, qu'on n'a pas tant dû souffrir que ça pour le sortir et que ça ne nous rappelle pas tout ça. C'est pas frustrant parfois quand la musique vient en premier, de devoir réadapter le nombre de pieds, le nombre de syllabes, parfois la mélodie que vous aviez imaginée, d'avoir des situations où ça devient un peu contraignant.
Justement, j'ai la chance d'avoir travaillé avec des gens qui sont extrêmement doués pour ça et qui s'adaptent totalement à mes mélodies, quoi. J'ai jamais eu besoin. Je trouve que c'est compliqué de changer une seule note de mélodie. Peut vraiment vous emmener totalement ailleurs, quoi. C'est bizarre, mais c'est une vérité, quoi. C'est-à-dire que ça fonctionne sur un espèce d'équilibre très fragile comme ça, et si vous êtes obligé de rajouter un pied ou d'en enlever un, c'est pas pareil, quoi. Donc une fois que la mélodie elle est établie, elle doit être respectée, donc l'auteur lui s'adapte sur la mélodie. Et inversement, il m'est arrivé aussi de mettre des musiques sur des textes qu'on m'a proposés. Et là, ce qui est un peu différent, c'est que j'ai l'impression de travailler sur le texte et d'accompagner le texte. Enfin, c'est vraiment le jeu, d'ailleurs. C'est de le mettre en valeur et de jouer avec le sens des mots pour adapter ma mélodie dessus, quoi. Un mot, ça serait « je pars ». Je pourrais pas faire « je pars ». Parce que ça, on a l'impression qu'on part pas, mais qu'on va dans le sens inverse.
Oui, c'est vrai, il faut qu'il y ait ce lien entre les mots.
Voilà, dans les choses, c'est « je pars ». Enfin, voilà, des choses comme ça qui me semblent assez naturelles et qui, quand on écrit sur un texte, je me sens obligé de respecter ces aspects-là, quoi.
Vous avez aussi parfois des contrastes à travers l'humour. Il y a de l'humour dans vos clips. Je pense au clip de Tout est pop que vous avez fait en mettant des GoPro sur des chats. Je trouve ça très drôle. Ou les majorettes où vous tombez sur Manu Reva et la chanson Ce n'est que moi, qui justement me fait penser à ce que vous disiez par rapport au travail d'auteur, parce que c'est quand même un sacré niveau d'amitié qu'un auteur soit capable de vous écrire quelque chose au nom d'Alain Chamfort. La chanson est très drôle, il y a beaucoup de recul sur vous-même, sur le passage de l'âge aussi. Est-ce que l'humour pour vous parfois c'est aussi une forme de refuge? Parfois l'humour ça peut aider un petit peu à être moins gêné de se dévoiler. La chanson Ce n'est que moi, elle a un côté très personnel. Derrière l'humour finalement il y a quelque chose d'un peu triste. Est-ce que l'humour permet de mieux l'emmener, quoi?
Je trouve que l'humour, il permet d'atténuer, effectivement, d'atténuer les souffrances, enfin, comment dire, une espèce de pansement, quoi. Et moi, je trouvais ça nécessaire aussi parce que j'ai pas mal de recul naturellement dans la vie. Ça m'a été transmis en grande partie par ma mère, qui était aussi comme ça, qui avait cette capacité-là. Et donc, d'avoir un peu toujours la distance par rapport à ce que j'observe, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je suis, tout ça. Donc, j'avais besoin aussi que ça soit à un moment donné exprimé dans les chansons, quoi. Et pour en revenir à la chanson Ce n'est que moi, c'est-à-dire que c'était peut-être de mise en abîme du chanteur qui se raconte lui-même et qui est face à des situations, effectivement, qu'on réalise à un moment donné que le temps a passé, et c'est par rapport au public qui nous écoute, quoi. Parce que, voilà, ce mec, il arrive un peu, il fait le bel âtre autour d'une jeune fille, puis elle lui fait prendre conscience que, non, va voir ma mère, quoi. C'est, en gros, c'est un peu ça. Et donc, je trouve que c'est important de devancer un peu les situations. Et de les annoncer avant de les vivre, quoi.
Oui, d'accord, hein, oui, je comprends mieux, effectivement.
Ça les désamorce après.
Je suis chanteur de variété, je passe parfois dans le poste. Voilà, Manu Reva, c'était moi. C'était votre chanson préférée? Celle de votre mère? À propos, vous habitez toujours chez vos parents?
Et il y a des artistes dont on dit que, par exemple, Benjamin Biolay disait à propos de Charles Trenet, on dirait que chez lui, la vie s'arrête à 20 ans. Parce que c'est vrai que lui, jusqu'au bout de sa vie, il a chanté des chansons sur la jeunesse. Vous, vous avez l'air de plutôt embrasser chaque passage de la vie. Il y a Ce n'est que moi, il y a dans Sinatra, la chanson Sinatra, vous dites, je pourrais tous être leur papa. Qui a ce côté drôle aussi, Sinatra, quand vous dites, plaisante pas, ça donne un peu envie de rire, parce que par rapport, franchement, Sinatra, tu me le laisses, elle est assez drôle. Vous avez toujours cette curiosité par rapport au temps qui passe, à l'âge, de voir chaque nouveau questionnement, chaque nouveau avantage, chaque nouveau inconvénient. Est-ce que vous êtes plus curieux de l'âge qui passe qu'anxieux face à ça?
Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'anxiété, bien sûr, ça serait mentir, mais je trouve que c'est intéressant quand on a la possibilité de le faire et quand on s'y prête, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'appuyer et de mettre l'objectif sur des aspects qui sont pas les plus valorisants, évidemment. Mais mon rôle d'artiste se nourrit de ça. Enfin, je veux dire que ça me paraît assez logique de tenir compte de ce que je deviens pour l'exprimer dans les chansons. C'est un choix personnel, mais d'observer effectivement qu'on peut pas ressentir la même chose quand on a 20 ans, quand on en a 40, quand on en a 60, quand on en a encore plus, ce qui est mon cas maintenant, c'est une illusion que personne n'y croit. Enfin, on peut pas continuer à faire les jolis cœurs, à faire le séducteur. Il y a un moment donné où il faut s'adapter et accepter et respecter ce qu'on est. Je trouve ça enrichit effectivement votre œuvre, entre guillemets, et j'ai observé ça à l'égard d'autres personnes et je trouvais bien de les voir faire face à ce qu'ils devenaient et de l'assumer et d'en faire un avantage, presque. Ouais.
Leonard Cohen, par exemple, chez qui je trouve qu'il y a toute une esthétique même de l'âge et même de la vieillesse. On le voit très différent, jeune que plus âgé, mais en fait, les deux ont leur propre esthétique, leur propre charme presque artistique, on va dire. Et Leonard Cohen, plus vieux, a ça de très intéressant. Ça nous permet, nous aussi, même quand on est plus jeune, d'en tirer des leçons aussi. Il y a un petit peu de ça.
Oui, c'est ça. Bah, c'est ce que j'ai fait, moi, en observant les autres. Et je me suis dit, maintenant, c'est mon tour de participer.
C'est beau, parce que c'est une éternelle transmission, en fait.
Absolument.
C'est très beau. Et quand j'ai parlé un petit peu d'Alain Chamfort autour de moi, aux gens qui avaient vécu vos sorties, en fait, j'ai eu des retours plusieurs fois qui m'ont dit « Alain Chamfort, il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était assez avant-gardiste en termes de son par l'utilisation des synthétiseurs. » Même si nous, aujourd'hui, ça nous semble évident parce que c'est devenu acté. Apparemment, à l'époque, vous étiez un peu dans cette émulsion artistique avec François Droubet, forcément, quand on parle de synthétiseur, ou même Patrick Juvet. Apparemment, vous avez été un des premiers à populariser le synthétiseur. Est-ce que c'était une volonté consciente de votre part de faire quelque chose dans l'air du temps, de s'intéresser artistiquement à ce qui arrivait de nouveau, ou alors ça s'est fait très naturellement par pur goût, par pure excitation d'entendre toutes ces nouvelles possibilités?
Je pense que ça a dû se faire naturellement. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un engagement avec Yamaha ou je sais pas, pour participer à la diffusion des marques d'instruments de musique. Non, moi-même, je suis à la base, j'étais un musicien. Et étrangement, je suis passé du piano, qui était mon instrument fétiche, enfin l'instrument qui m'a mis en connexion avec la musique, à l'orgue assez rapidement, à l'âge de 14, 12, 13 ans. L'orgue était un plus portable, enfin, avec des sonorités différentes du clavier, du piano, mais ça ouvrait un champ comme ça des possibles aussi. Puis ça m'a permis aussi de rejoindre des groupes et de commencer à m'intégrer dans des groupes de musiciens et de pouvoir participer comme ça à mon éducation musicale et de l'enrichir et tout ça. Et puis d'ouvrir ma voix de chanteur. Enfin, voilà, c'est mon parcours, quoi. Mais j'ai toujours gardé cet intérêt pour ce que la musique devenait, quoi. Sa manière d'évoluer. Et elle évoluait, évidemment, en termes d'arrangement, en termes de possibilités sonores. Et le synthétiseur, quand il est arrivé, c'était encore une autre fenêtre qui s'ouvrait. Donc je me suis équipé assez rapidement et de laisser s'exprimer, ça vous amène ailleurs, quoi. C'était des sonorités qui permettaient des... Après, il y a eu les samples, enfin, aussi, qui permettaient de reproduire des orchestrations, etc. Donc tout ça, c'est des instruments, enfin, des outils, quoi, qui vous permettent d'explorer d'autres choses et de vous accompagner vers vers des chemins à découvrir encore. Donc, ouais, c'est ça. Et maintenant, je continue encore. C'est-à-dire que sur le dernier album, on parle de son maintenant. C'est-à-dire que revenir sur de l'organique, voilà, c'est le fameux combat tout le temps. Est-ce qu'il faut des musiciens ou la programmation? Enfin, c'est des choses qui aujourd'hui, tout est possible. Je veux dire, on est arrivé à un moment donné où ça devient évidemment de plus en plus compliqué, mais de plus en plus aussi intéressant de voir avec tout ce qui est à notre disposition, comment on va utiliser tout ça maintenant. Voilà, donc je reste attentif à ça, je reste curieux, ça, et ça me plaît beaucoup, quoi. Ça participe beaucoup à l'idée de me maintenir, quoi, tout simplement. Voilà.
C'est vrai que Gilbert Montagnier m'avait dit, alors moi j'ai 100 000 sons sur mon clavier, ce qui est largement possible. Comment on fait pour, j'imagine, c'est peut-être un fantasme de jeune génération, mais qu'à l'époque, il y avait le synthé du studio et il fallait faire du mieux possible avec ça, et finalement la contrainte pouvait permettre d'en tirer quelque chose. Aujourd'hui, effectivement, quand on a accès à ce qu'on appelle des VST pour ceux qui nous écoutent, ce sont les sons virtuels qu'on utilise aujourd'hui. Et en fait, il y a tellement d'options possibles que c'est extrêmement complexe
de faire du synthétiseur. C'est vrai, c'est vrai.
Mais vous, ce qui est bien, c'est que même si effectivement vos derniers albums sont bien produits à base de synthétiseurs, etc., on peut toujours vous retrouver sur scène en acoustique et entendre les chansons différemment. Moi, j'ai beaucoup aimé les versions piano à deux pianos de La Grâce, par exemple.
Oui.
Et même, vous revisitez beaucoup vos anciens tubes. Il y a cette version avec le pianiste Thierry Eliez.
Ah, Thierry Eliez, magnifique, oui, bien sûr.
Impressionnant. Ouais. Cette version-là de... Bambou, où il improvise au piano et en même temps il siffle.
Oui.
c'est quand même. Vous êtes sur vous avez un son de Fender Rhodes par-dessus. Enfin, ouais. Cet arrangement-là, c'est super intéressant. Vous aimez faire écouter aux gens vos chansons avec différents habillages?
Soit c'est les versions sur lesquelles on travaille en studio, voilà, qui sont présentées sur les albums au moment de la sortie de la chanson et c'est un espèce de costume, quoi. Enfin, on l'habille pour qu'elle corresponde au moment où on la présente, c'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, dans les années 70, un type d'arrangement, 80, 90, aujourd'hui c'est encore autre chose. Mais en même temps, ce qui est important, c'est que la chanson, elle existe indépendamment de tout ça, qu'elle soit indépendante de son habillage, de son son. C'est un principe un peu, je dirais presque un peu dépassé aujourd'hui, un peu ancien, parce que finalement, beaucoup de gens se contentent du son aujourd'hui. Le son, la mélodie est un peu, est en arrière-plan, quoi. Elle est presque effacée totalement au profit d'une proposition sonore uniquement qui se travaille pareil, c'est un puits sans fond, mais en même temps c'est un petit peu comme de la peinture aujourd'hui, quand les sons sont comme de la couleur, comme de la matière, mais il en reste pas moins que la mélodie, à mon avis, quand même du sens encore, et qu'elle est porteuse d'une émotion qui lui appartient, quoi, et qu'on peut pas remplacer véritablement. Donc moi je suis toujours à la recherche de cette petite ritournelle, comme dit André Manoukian, quoi. J'aime bien ce mot-là parce que c'est assez juste. Il suffit de trois notes, quoi, mais si elles sont à leur valeur, à leur place, elles produisent quelque chose d'unique, quoi. Donc, c'est ce que j'aime finalement, quoi, oui.
De toute façon, la mélodie, c'est ce qui traverse le temps. C'est pour ça que même dans le monde de la musique classique, j'ai l'impression que les romantiques sont beaucoup plus écoutés par les plus jeunes. Tchaïkovski, ça reste une énorme star pour tout le monde, parce que ce sont des gens qui ont eu des mélodies fortes, plutôt que les compositeurs, peut-être parfois plus anciens, qui étaient plus dans les contrepoints, les arrangements, avec des harmonies simples, pas forcément de mélodies qu'on pouvait retenir, pour certains, je veux dire, hein, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont plus oubliés, alors que les mélodies traversent les siècles et que... Si Tchaïkovski était vivant aujourd'hui, il remplirait 5 soirs de suite le Stade de France, parce qu'en fait, tout le monde est encore sensible à ça. La mélodie avait déjà failli disparaître à une époque. Je prends l'exemple de William Scheller, qui avait refusé de passer le prix de Rome, parce que la mentalité de la musique à l'époque était de mettre la mélodie en arrière. Ouais. Et lui, là, il a absolument refusé ça. C'est vrai que quand on parle à des musiciens aujourd'hui, parfois, on a l'impression de parler à des ingé-sons. La frontière est devenue un peu floue, effectivement. Hein? C'est plus beaucoup de compositeurs qui vont parler d'harmonie, qui vont parler... Je vais vous parler de la chanson Sinatra. Vous citez beaucoup d'artistes dedans. Justement, est-ce que les artistes qu'on écoute le plus sont ceux qui nous influencent le plus, ou l'influence peut venir d'un accord, d'une parole, de quelque chose qu'on a entendu à la radio, comme ça?
Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Bah, c'est plutôt ça, oui, c'est plutôt quelque chose qui vous surprend, qui vient capter comme ça, d'un seul coup. Il y a une surprise, quoi, une suite harmonique que vous n'avez pas songé vous-même, que vous n'allez pas essayer de reproduire, parce que ça devient du plagiat, enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais, elle a créé une curiosité, elle a créé quelque chose en vous, et que vous cherchez, vous, à le reproduire vous-même autrement, quoi. Voilà. Enfin, je pense que c'est un petit peu ce genre d'accident-là que j'aime entendre, moi, oui.
continuer finalement à... On parlait tout à l'heure d'est-ce que la musique c'est un don ou c'est le cerveau qui mélange les influences. Du coup, c'est très important de continuer à nourrir son cerveau de plein de choses pour qu'il soit capable de faire un mélange que nous-mêmes, on serait peut-être même pas capable de retracer, de savoir d'où vient quoi, tellement les influences se sont mélangées dans notre esprit.
Totalement, oui. Et tout y contribue, hein, je pense. Évidemment, là, on parle de la partie musicale, de la nourriture musicale qui nous est indispensable, mais aussi, je dirais que chaque petit événement de la vie contribue aussi à participer à ce que vous êtes, à ce que vous devenez. Et donc, les rencontres, les sensations naturelles d'un jardin. Je sais que tout vient vous nourrir et qu'il n'y a aucune raison qu'un seul élément échappe à ce que vous devenez et qui vous sert à vous exprimer vous-même après, quoi.
Vous avez déclaré à un moment donné que vous étiez assez sensible au retour de la presse spécialisée. Ce n'est pas toujours le cas des artistes, il y en a même qui la détestent. Vous, est-ce que vous avez souffert, sans parler de l'époque Claude François, etc., sur laquelle on vous a déjà amplement fait revenir, sur votre seconde période, disons, est-ce que vous avez souffert parfois de l'image de chanteur populaire ? Est-ce que vous avez senti parfois un mépris injustifié pour ça, de milieux un peu plus classiques ?
Oui, pour être franc, j'en souffrais pas, mais je trouvais que oui, ça ralentissait vraiment la possibilité que j'avais de faire reconnaître autre chose. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas imposé les choses. Quand j'ai travaillé avec Claude François, il m'a proposé, j'ai eu envie de jouer cette aventure, de rentrer dans ce jeu-là de la variété. Ça a été un peu un tremplin, comme aujourd'hui les gens vont à Star Academy ou je ne sais pas. Enfin bon, c'est pas très gentil de dire ça parce que c'est un peu méprisant pour Claude, mais c'était pas le cas du tout. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un que j'aimais bien, c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien, et il m'a offert cette possibilité-là de devenir un chanteur et de m'aider à être connu et à avoir du succès. Et bon, c'était super, quoi. De découvrir ce métier, de pouvoir vivre autrement, voilà. Mais c'est vrai que je me sentais que je coinçais à un moment donné et qu'il fallait, si je voulais pouvoir faire de la musique qui me corresponde davantage, sortir de cet environnement-là et d'essayer de tenter autre chose sans avoir aucune garantie, bien sûr, d'arriver à je me connaissais pas encore non plus, hein. Et puis voilà. Et donc quand j'ai fait mon premier album, surtout que ça s'appelait Rock and Rose, qui était vraiment très radical par rapport à ce répertoire que j'avais construit chez Flèche, bah il y a eu des réticences. Les gens comprenaient pas. On se demandait sur quel terrain j'allais d'un seul coup. C'était très, très prétentieux de jouer avec des musiciens américains, de demander à Serge Gainsbourg de faire mes textes. Enfin, d'un seul coup, le public que j'avais un petit peu construit autour de moi, que j'avais séduit, il se sentait un peu trahi, quoi.
Oui, peut-être des filles qui ont arraché leurs posters dans leur chambre.
Et alors, certainement que ça a dû donner des choses de ce type-là. Mais en même temps, j'avais j'ai eu un peu de mal aussi à paraître crédible vis-à-vis des gens pour qui cette image de chanteur à minette et de variété était très établie en ce qui me concernait, quoi. Donc après dire qu'on en souffre, c'était un grand mot. Mais c'est vrai que ça a mis un peu plus de temps que pour certains autres artistes qui eux n'ont pas eu des carrières comme ça à double face, quoi, je dirais.
Oui. Et aujourd'hui, est-ce que à l'époque ça devait paraître étonnant? Mais aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes qu'on connaît qui ont suivi ce chemin-là, d'avoir d'abord été un chanteur populaire et qui ont voulu approfondir leur art, comme Nino Ferrer, typiquement, ou Christophe. Et oui. Finalement, aujourd'hui, ça choque plus tellement de voir un artiste qui a commencé par de la variété et avoir approfondi son œuvre plus tard. C'est même quelque chose dans laquelle on reconnaît beaucoup de grands artistes, en fait. Vous, maintenant, vous voulez plus sortir d'albums en physique, vous voulez les sortir sur les plateformes, ce qui est dans l'air du temps, ce qui est probablement une bonne idée. Et surtout, ça met votre œuvre un petit peu en avant dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'être. Les jeunes peuvent découvrir vos albums différemment. Il n'y a plus la contrainte du single. Sur Spotify, etc., on a les albums en entier, c'est vrai. Mmh. Est-ce que vous êtes surpris parfois par les retours du jeune public qui aura flashé sur des titres qui n'étaient pas ceux qui avaient marché à l'époque ?
Oui, totalement. C'est pas très vieux d'ailleurs. J'ai deux jeunes garçons qui sont venus à la suite d'un concert à moi. J'étais étonné parce qu'ils avaient vraiment 23, 24 ans. Donc généralement dans mon public, les plus jeunes c'est autour de 40 ans, quoi. Et, ouais, j'étais vraiment très surpris. Et puis Je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous faites là, carrément. Et ben justement, ils avaient craqué sur Rock'n'Rose, voilà. Ah ben ouais. Et on a pris contact après, parce que j'étais curieux quand même de voir que ça pouvait intéresser cette génération-là. Et puis, je sais pas par quel cheminement ils sont arrivés à moi, honnêtement. Je crois que leurs parents, enfin, il y a quand même un lien quand même, c'est un peu comme ça. Ils ont pas fouillé sur Internet. Et je me suis aperçu effectivement que ça pouvait créer un intérêt auprès de gens très différents. Et j'en suis ravi, quoi. Ouais.
Vous avez parlé de votre voix un peu plus tôt. Vous avez eu l'habitude de chanter en voix de tête à une époque, notamment sur Manureva. Aujourd'hui, sur scène, vous avez, alors je n'ai pas son nom, mais une claviériste qui a une voix magnifique, qui fait la voix derrière. Et quand on entend sa voix, il y a un côté presque voix d'opéra.
Julia Jérôme, hein, ça s'appelle.
Ah ben voilà. Elle a une voix magnifique. Est-ce que pour d'autres titres, vous aimez le fait de changer votre interprétation avec les nouvelles possibilités qu'offre votre voix qui sonne plus grave qu'avant, par exemple? Est-ce que c'est intéressant de revoir ces chansons avec sa nouvelle voix?
C'est-à-dire qu'au début, j'avais pas le sentiment d'être un chanteur. Enfin, j'étais comme un instrument supplémentaire. Enfin, j'utilisais ma voix comme un instrument parmi d'autres. Et c'est pour ça que je jouais beaucoup avec les voix de tête. Je faisais du son, quoi. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ma voix faisait partie de l'arrangement, mais elle incarnait pas une position par rapport à mes textes. Je défendais pas mes textes, j'étais vraiment dans un truc comme ça, très très vocal, mais très très choriste, quoi. Bien des années plus tard, j'ai fait des piano-voix sur scène, et là d'un seul coup j'ai redécouvert ma position, mon rôle par rapport aux chansons, et le plaisir que ça pouvait être d'un seul coup de les interpréter, de donner du sens au texte, de venir vraiment un interprète, quoi, ce que j'avais mis de côté pendant de longues années. Puis j'ai aussi tenu compte de ce que ma voix devenait pour adapter mes chansons à ma voix, et non pas faire l'inverse, non pas chercher à conserver les tonalités qui relevaient de la création de la chanson, etc., et de faire de l'acrobatie pour maintenir ma voix à ce niveau-là, mais plutôt à accepter les tessitures qui baissaient avec le temps, et puis d'adapter les chansons. Je laissais le chemin inverse, quoi, que d'autres artistes maintiennent ce besoin de oui, conserver la tonalité d'origine, quoi, je dirais.
Barbara disait de certains chanteurs, ce ne sont pas des chanteurs, ce sont des diseurs, des conteurs.
Oui, mais ça j'aime bien. J'aime bien être entre les deux. J'aime bien à la fois maintenant respecter la mélodie, respecter avoir mon rôle de musicien avec ma voix malgré tout, mais aussi d'être au service de ce que je suis en train de raconter. Je pense que ça, c'est quand même c'est notre travail, quoi.
Finalement. Oui. Non, mais merci beaucoup, Alain Chamfort, pour cet entretien.
Merci, c'était très intéressant. Enfin, je sais pas si c'était intéressant ce que je vous racontais, mais j'aime bien vos questions.
Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, Alain.
Merci.
Nostalgie entre les notes.